On y va, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le Podval du cast Podval extraordinaire avec Morgane. Morgane, ça va ?
Salut !
Oui, ça va. Également avec Maxime. Maxime, ça va la pêche ?
Ouais, ça va la pêche.
Et nous sommes également avec Jérôme. Jérôme, ça va ?
Bah ouais, mon premier Podval, ça fait plaisir.
Putain, c'est ton premier.
Oh, il est puceau du Podval !
Vous savez ce que dit la prophétie, les premiers seront les derniers. Et oui, le Podval du cast s'arrête pour la saison. On ne sait pas quand il reprendra parce qu'on a un petit peu épuisé aussi tous les thèmes qu'on voulait aborder. Donc, on va se laisser un petit peu de temps. On va se laisser comme ça du temps avant de retrouver d'autres sujets. Probablement aussi avec peut-être la création d'autres tournois. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vous l'annonce. Ceci est le dernier Podval du cast de la saison. On attendra probablement un peu de temps avant d'en relancer en fonction des thèmes qui nous arriveront sur la table. Et ce thème aujourd'hui est un thème qui n'a jamais été traité sur le Podval du cast. Il s'agit de la divination.
Et oui, qu'est-ce que l'avenir nous réserve avec le Val ?
Et oui, c'est justement une fin de saison sur la divination. Je trouve ça extraordinaire, c'est fascinant. Mmh. Alors, et pour cela, nous sommes avec des gens qui utilisent cette méthode, la méthode dite d'Acharnard, à savoir Jérôme, qui n'aime pas le Val, mais qui aime la divination du Val, si j'ai bien compris.
C'est surtout le Val narratif que j'aime pas trop.
Ah d'accord, mais le Val normal, tu kiffes, tu joues, tu...
Ah oui,
il est classé.
Il est classé, ouais. T'es qui, toi, dans le classement pour l'instant ?
Alors, j'étais Jupiter, mais j'ai peut-être décalé d'un cran, là.
Ouais, t'es Saturne, je crois.
Ah.
Manges des enfants.
Manges des enfants.
Je crois que Saturne, je sais plus si je l'ai vaincu ou pas déjà. Je ne sais plus. Mais bon, bref. Donc nous sommes quand même avec Vénus, Saturne et notre divination, notre maîtresse de divination nationale.
Notre Morgane, Irma la voyante
notre
locale.
Notre Irma la voyante Morgane Irma.
On dit Madame Irma. Soleil.
Madame Soleil. Bravo. Oh, fameux. Oh, bravo. Félicitations. Tu vas nous expliquer un petit peu cette méthode et comment tu l'utilises et pourquoi tu l'aimes, et etc. Et pourquoi tu l'aimes moins, peut-être les défauts que tu lui trouves. On va traiter comme ça un petit
comment
peu.
Comment il délègue le podcast, là. Bim, allez, tu te débrouilles.
Ah bah, en même temps, c'est toi qui l'as proposé.
Oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai proposé.
Voilà, donc c'est parti, je t'écoute.
Alors, la méthode de divination du Val pourrait s'apparenter à comme ça, un jeu de tarot. Sauf ouais. qu'on joue voilà, avec des arcanes, les arcanes du Val en fait, hein, à construire des figures, puisque quand on joue au tarot, on joue avec un certain nombre de cartes selon ce qu'on aimerait, connaître de l'avenir.
Ouais.
La divination du Val se passe ainsi. Il faut, ça se joue à deux. Même si on peut se faire des tirages tout seul, c'est quand même plus sympa à deux, je trouve.
C'est pensé pour être fait à deux, surtout.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, on joue la personne qui tire et il y aura la personne qui va guider. Voilà, il y a la personne qui va faire la divination et le guide, dirons-nous. Il faut piocher d'abord des têtes. On les choisit, hein, on les pioche pas au sort. On les choisit, on les pose. Il faut en tirer trois. Une quatrième sera tirée face cachée par le guide. Elle représente l'être de l'ombre.
Alors face cachée, c'est pas marqué, mais nous on le joue comme ça. On aime bien le dévoiler à la fin de la divination.
Ah, c'est pas marqué.
À toute fin, d'accord.
On aime bien. Ouais,
non, moi je le montre dès le début. Moi.
Ah bah tu vois, pour moi ça me paraissait évident, mais.
Ouais, nous on préfère le cacher comme ça. C'est vraiment l'être de l'ombre et c'est à la fin. Bon bah voilà ce que c'est. Donc par exemple c'est un l'autre fois qui est tombé sur un fou avec un gros cœur et on se rend compte que c'est un roi de cœur. Et comme ça, il y a une nouvelle étape de « Ah tiens !» Ah ouais, carrément.
Ouais, c'est intéressant.
C'est donc, hormis l'être de l'ombre qui donc reste inconnu et voire caché tout le long de la divination, les trois autres têtes qui sont choisies et posées sur le versant doivent être nommées par la personne qui fait la divination. C'est-à-dire que ça doit être quelqu'un que vous connaissez ou un grand concept. Ou... Voilà, c'est une entité que vous pouvez nommer très clairement. Ensuite, face cachée, le guide va vous proposer les couleurs.
Les arcanes.
Oui, toutes les arcanes.
Les ressources cardinales.
Les ressources cardinales, voilà, face cachée. Et puis vous les piochez au fur et à mesure. Sans les regarder, vous les attribuez à l'une des figures, que ce soit les trois que vous avez dévoilées, que vous connaissez, ou l'être de l'ombre. Tu m'arrêtes, hein, Jérôme, si je dis des bêtises. Hein
ouais, non, c'est bien.
Donc, vous prenez la carte face cachée, sans la regarder, vous dites, bah voilà, je pense qu'elle va pour telle figure.
C'est tellement pas mon jeu qu'on demande à Jérôme de valider ou de pas valider.
Pardon,
quoi.
T'avais l'air très occupé.
Non, mais c'est vrai. Non, mais tu as tout à fait raison. Je pense que Jérôme et toi, vous êtes plus compétents que moi pour parler de tout ça que moi-même. C'est
voilà.
C'est ça
qui une fois que vous avez choisi la tête qui va hériter de la ressource cardinale, vous retournez la carte et ensuite vous la placez autour de la tête comme si c'était une figure du Val. Donc le cœur à gauche, le pique à droite, le carreau en haut, le trèfle en bas. Et elle représente toujours ce qu'elle représente au Val. Le cœur représente l'amour, les sentiments, la santé, la condition physique, etc. L'arme, c'est la combativité. Enfin, chacun y met ce qu'il veut, mais la symbolique reste la même.
Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que tu fais une action comme ça,
voilà,
le guide te demande pourquoi est-ce que tu vas attribuer une ressource à cet être. La réponse des fois c'est simplement ah ouais, pour le moment il est insensé, j'aimerais bien que la source me parle et qu'elle me dise ce qu'il est. Ça peut être tout bêtement, j'ai pas envie de rester, je trouve qu'il a un sacré cœur, mais je pense pas que ce soit un enfant, donc j'aimerais bien voir si la source est d'accord avec moi.
Voilà, donc à ce moment-là, tout le rôle du guide, c'est de poser des questions, et ça c'est assez différent du tarot en fait, parce que dans le tarot vous regardez, vous retournez les cartes en fait, vous êtes le catalyseur de l'énergie, de la question, de tout ce que vous voulez. Et c'est la personne qui tire qui va interpréter les cartes pour vous.
Effectivement. Et sur les sites d'astrologie spécialisés, parce que moi j'adore l'astrologie et l'horoscope et toutes ces méthodes, non pas au sens où je penserais qu'elles peuvent guider ma vie et être vraies, mais au niveau, en termes d'esthétique, je les trouve magnifiques. En fait, l'ésotérisme, d'une manière générale, en termes d'esthétique, je trouve ça très beau. Donc du coup, je m'y intéresse beaucoup. Et en général, justement, ce qui est conseillé, c'est surtout de se taire. C'est-à-dire que le client... Alors je sais plus, c'est pas le client, c'est le...
Je sais pas
on appelle ça le... Oh putain, merde, le trou. C'est pas le patient, c'est pas le client, c'est le consultant. Voilà, putain. Le consultant, il doit justement rester le plus muet possible devant son voyant.
Devant son tirage, ouais.
Ouais, absolument. De façon à justement ne donner aucun renseignement,
ni
aucun
parasitage. Lui, ce qu'il faut, c'est qu'il reste concentré sur la question qui s'est posée au début du tirage. Vous n'êtes pas obligé de vous poser une question, il me semble, quand vous commencez une divination. Du Val, une divination
dans le Val,
du Val.
Si, je crois que t'es censé te poser une question.
D'accord. Okay. Ah,
exactement, c'est-à-dire que...
Je crois pas. Enfin,
regarde, Maxime, il a son Val dans les mains.
Alors, Maxime...
Pendant que tu cherches, je vais continuer. Donc du coup, vous attribuez des ressources à chacune des têtes, y compris l'être de l'ombre que vous avez devant vous, toujours face cachée, puis vous les retournez au moment où vous avez choisi à quelle tête elle va. Il faut que vous construisiez éventuellement des figures qui existent dans le Val, c'est-à-dire des enfants, des chevaliers, des mages, des accomplis, toute figure qui, à la fin du tirage, ne serait pas complète, en fait, la source ne peut pas se prononcer dessus. Donc, pendant tout ce tirage-là, le guide va vous poser des questions et vous devez tirer 16 arcanes en tout. Voilà. En sachant que si, par exemple, vous avez déjà, je sais pas, un enfant devant vous, vous reprenez une carte, vous la donnez à cette même figure, à l'enfant, et vous retournez, c'est un double cœur. Voilà, c'est encore une carte de cœur. L'enfant peut pas avoir de... Enfin, une figure peut pas avoir de cœur. Donc, en fait, toutes ces cartes en double comme ça que vous pouvez pas finalement placer parce qu'elles existent déjà sur la figure en question, vous les gardez pour vous. Elles serviront à la fin de la divination. Donc, vous distribuez 16 arcanes. Éventuellement, à ce moment-là, vous retournez l'être de l'ombre si vous avez décidé de le faire face cachée. Et puis, ça vous donne effectivement une idée des forces en présence, soutien, ennemi, ça dépend qui vous avez mis dans les têtes. Et toutes les cartes que vous avez gardées en double vont parler de vous. Si avec ces cartes en double, vous pouvez former une figure qui existe au Val, un enfant, un chevalier, un mage, un spectre, tout ça, c'est la figure qui vous représente, vous, au moment du tirage. Enfin, dans la configuration que vous avez choisie, c'est vous. Si jamais, comme moi, hier, vous avez pioché genre que des piques,
la source est muette.
La source est muette, elle ne peut rien dire sur vous. Voilà. Et donc, je dis que ça ressemble au tarot parce qu'il y a une question d'arcane, il y a une question de symbolique, il y a une question de choix. Éventuellement, pour les gens qui veulent, ça peut être une façon, pourquoi pas, hein, de poser des questions sur le futur, un futur ou un projet ou je ne sais quoi.
J'ai envie de dire, ça ressemble au tirage de cartes traditionnel, que ce soit avec les tarots, avec le jeu de cartes normal.
Mais il y a une différence fondamentale, c'est qu'il y a un échange verbal entre la personne qui fait le tirage et le guide en face. Et c'est plutôt de l'introspection.
Voilà.
À ce moment-là, je trouve que la divination du Val, même si ça ressemble quand même au tarot dans le principe et dans l'esthétique, c'est quand même plutôt de l'introspection, de l'accompagnement, de réflexion. Enfin, voilà.
Je suis complètement d'accord. C'est vrai que quand tu dis aussi que la différence fondamentale, c'est l'échange verbal, je pense que ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ouais, fondamental.
Il y a ça et la notion de choix répété. Parce que dans le tarot, on tire les cartes. Alors, on le fait un peu au feeling, parce que je crois qu'au tarot, elles sont face cachée. Mmh. Et on les pioche comme ça, un peu celles qu'on sent. Et puis, on les met en place. Mais là, en permanence, on choisit telle carte pour telle figure, etc. C'est plus construit, en fait, qu'un truc de tarot, quoi.
L'art divinatoire, donc la méthode d'Art Charnard, est finalement moins prédire l'avenir. Si j'ose dire, c'est moins du tirage de prédire l'avenir que d'expliquer le présent et voir les forces en présence dans le présent. Et l'homme de l'ombre représente un petit peu ce qui va peut-être éventuellement se passer dans un futur incertain. Éventuellement, ça peut être un homme du futur, mais c'est pas certain. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît déjà et qui va avoir une influence sur nous.
Ou soi-même.
Et du coup, cette méthode à l'aide de questions permet une introspection sur le présent et le passé plus que sur l'avenir. Souvent, quand on tire les cartes, on dit « je vais te lire l'avenir, hein, je vais sortir la boule de cristal ». Voilà. Alors que là, c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment plus de l'introspection.
J'ai tendance à dire que ça ressemble un peu à la... Ça a un côté très psychologique, je parlais d'introspection, mais ça peut presque avoir un effet, alors je vais mettre des gros guillemets, mais un effet psychothérapeutique dans le sens où il y a un échange verbal... ce qui est au cœur d'une psychothérapie, voilà, quelque chose qu'on ressent, une idée, etc. C'est de la
et à travers un jeu de cartes, de la psychanalyse, c'est de la libre association,
ouais.
C'est ça que tu veux dire,
mais tu sais, le fait de sortir un truc qu'on a en soi,
de la verbalisation, de la libre association, de la catharsis,
ça va me revenir peut-être, hein.
De la, comme Socrate, l'accouchement.
Ouais, non, mais ça va me revenir, j'ai le concept dans la tête. Et je pensais plutôt à la psychothérapie qu'à la psychanalyse, parce que la psychanalyse, c'est très particulier.
D'accord, ok, très bien.
Et je suis d'accord avec ça. Hein. Jérôme, vraiment, tu penses que le mot n'est pas forcément usurpé.
D'accord, ok. Toi, dans les cas de divination, alors justement, peut-être le mot était finalement mal choisi, on aurait dû appeler ça plus que la divination, l'introspection.
J'aime bien divination.
Très bien. Donc du coup, Jérôme, tu es d'accord avec tout ce que Morgane a dit ? Rien à ajouter ?
Non, là je suis complètement d'accord.
Est-ce que tu as dit qu'à la fin, alors je confirme après recherche que non, on ne se pose pas de questions au début.
Ouais, c'est ça.
Mais à la fin, par contre, il faut s'en poser. Il dit qu'est-ce que tu as appris sur le présent ? Qu'est-ce que tu penses avoir appris sur toi ? Donc il y a les questions de fin. C'est voilà, à quoi t'as servi cette divination ?
Ouais.
Tu réponds aux questions et à la fin, dans le folklore, il te répond pas, il s'en va en silence.
Voilà. Et donc du coup, c'est à toi de rester avec tes questions. Jérôme ?
Moi, je sais que j'ai très vite rajouté une quatrième question. Ou il me semble qu'il y en a trois qu'on doit poser.
Ouais, nous, on suit rarement vraiment le truc à la lettre.
Mais j'ai tendance à tout le temps demander au joueur qu'est-ce qu'il a aussi appris des autres ou de son rapport aux autres.
Ah oui, mais je crois qu'elle est dedans.
Qu'as-tu appris du passé, qu'as-tu appris de toi, qu'as-tu appris de ton avenir ? Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de demander. Mais normalement, au moment où on révèle les figures, tu demandes qu'est-ce que t'en penses. Enfin, je crois que. Enfin, nous, on le fait comme
oui,
ça. C'est au moment où on révèle
aussi,
les figures.
Mais
on fait,
je trouve bien de le demander aussi à la fin de façon synthétique un peu.
D'accord, ok. Ouais, non, c'est
moi j'aime bien faire ça.
Un petit bilan.
T'as parlé du moment où tu peux exorciser et éduquer tes.
Non,
tes
j'ai
êtres.
Pas parlé de ça.
Ouais, est-ce que.
J'ai pas parlé de ça.
Donc, tome 2.
Tome 2.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Avec les arcanes que vous avez en trop, c'est-à-dire celles que vous avez gardées dans votre main, parce qu'en fait elles feraient doublon avec les figures que vous aviez devant vous et à laquelle vous vouliez les donner. Vous pouvez les utiliser soit pour les garder pour vous.
Non, tu peux. Une fois qu'on a défini ce que la source pensait de toi, tu peux les utiliser
pour
éduquer.
Ah, une fois qu'elle a
attaquer.
Été définie, d'accord. Je pensais que c'était avant, autant pour moi. Donc, une fois que vous savez quelle formation vous êtes, si jamais vous êtes une formation, toutes les figures que vous avez, enfin toutes les arcanes que vous avez dans la main là, tous les arcanes, parce que je crois que c'est masculin.
Oui, absolument.
Voilà, je vais faire le lapsus souvent.
C'est pas grave.
Vous pouvez les utiliser pour exorciser éventuellement les spectres qui se trouveraient sur votre terrain de divination, sur votre versant divinatoire.
Ou tuer les enfants.
Vous pouvez agir sur les figures dans les règles du Val. Le pique attaque le cœur, le carreau attaque le trèfle, etc. Et vous pouvez aussi compléter les figures que vous avez avec les cartes que vous avez en double. Si vous avez un enfant, vous pouvez très bien l'éduquer pour en faire n'importe quelle autre figure.
Voilà, tout à fait.
En se demandant, en exprimant verbalement, qu'est-ce qui motive ce choix ?
Ouais, oui, voilà. Ouais. Pourquoi est-ce que je l'éduque lui de telle façon ? Pourquoi est-ce que lui, je l'exorcise comme ça ? Etc.
Alors, je pense vraiment que le mot que tu cherchais, Morgane, c'est le terme maïeutique, qui convient parfaitement à ce que sont les arts divinatoires du Val.
Moi, j'avais vraiment, tu sais, juste l'élan de faire sortir quelque chose, mais effectivement, quand tu penses ça,
mais parce que
l'adjectif m'échappe. Mais
la maïeutique, c'est donc une méthode philosophique créée par Socrate. Et donc, évidemment, raconté par Platon, donc on ne sait pas exactement en quoi il a déformé aussi les propos de Socrate, mais qui consistait à dire à poser un ensemble de questions pour faire en sorte que la personne en face de soi se révèle à elle-même et se découvre comme étant beaucoup plus intelligente et beaucoup plus sage qu'elle ne le pensait à l'origine. Pour Socrate et Platon, les hommes ont baigné. Fut un temps dans un monde idéal, dans le monde des idées, et ils en ont une impression qui est interne. Ils ont internalisé ces idées, ils les ont faites eux, mais en allant dans le monde sensible et dans la réalité, à force de voir des éléments particuliers, des choses particulières, ils ont oublié l'expérience qu'ils avaient eue du monde des idées. Et les questions de Socrate visent à faire en sorte que par le biais de questions, on entraîne quelqu'un dans un raisonnement qui le pousse à se ressouvenir, si j'ose dire, des idées originelles qu'il avait. Et cette technique est appelée la maïeutique, parce qu'à force de questions, on finit par révéler la personne elle-même. Et les arts divinatoires du Val, c'est vraiment ça.
La maïeutique, c'est le travail des sages-femmes. Des sages-femmes et des langeurs, puisque
oui, tout à fait, effectivement.
Les appellent comme ça.
C'est l'accouchement.
Voilà. Et donc ils ont utilisé ce terme-là qui est médical.
Accoucher des idées, absolument, tout à fait. C'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Donc la maïeutique, effectivement, la libre association également, parce que du coup on pousse la personne à s'exprimer, à verbaliser des choses qu'il a en lui, même si la technique de la libre association a quelque chose de très personnel. C'est-à-dire la méthode de la libre association consiste à faire en sorte que la personne parle pour aboutir jusqu'à des résistances. Et le psychiatre est très en retrait de cette libre, en théorie, est très en retrait de cette libre association et donc laisse finalement le patient se soigner tout seul. Là, on a vraiment deux personnes qui se font face, l'une qui répond à l'autre, etc. Donc, on est quand même dans une dynamique qui n'est pas non plus de l'ordre de la psychologie. On est vraiment plus dans la maïeutique, je pense, vraiment.
Après, en psychothérapie, tu as vraiment des méthodes très différentes.
Oui, oui, tout à fait.
Il y en a qui font du jeu de rôle.
Oui. Ah oui, tout à fait. Tout à fait.
Du coup, c'est bien que je vais pouvoir vous poser une question. Quand vous faites une divination en tant que joueur, quoi, c'est vous qui tirez les cartes pour vous. Qu'est-ce que vous en attendez, en fait ?
C'est très intéressant. Je veux juste signaler que depuis tout à l'heure, tu as dit « jouer à la divination ».
Et je vais le souligner aussi.
Ouais. Et non, mais toi aussi.
Ouais,
Jérôme, tu l'as dit.
Ouais,
oui, tu as dit joueur.
Oui,
tu dis les joueurs. Donc c'est très intéressant. Alors peut-être que tu faisais référence aux joueurs de Val en règle générale.
En fait, je trouve pas le mot. On dit consultant, mais j'aime pas ce terme-là. Il me plaît pas du tout.
Voilà, mais c'est amusant. Alors la question, vas-y, répète ta question du coup.
Vous êtes dans cette position de consultant,
ouais.
Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez en fait quand vous faites une divination ?
Des confirmations. Moi, clairement, des confirmations de je suis dans la totale confirmation de ce que je pense des gens. C'est-à-dire, je vais voir ah bah oui, bah lui c'est logique, c'est un mage, bah, ça m'étonne pas quoi. Tu vois, quand tu me tires Darky et que c'est le valet de carreau et avec un 10 de carreau dans la tête, si tu veux, je suis là ah, bah oui, bah, c'est Darky quoi. Ou c'est toi, voilà Maxime, voilà genre de psychologie. Tu dis bon voilà, tu je sais pas, tu tires un Jérôme avec du pic, bon, ça m'étonne pas quoi, tu vois, enfin c'est ça quoi, tu vois, tu reconnais les gens. Alors après évidemment tout ça c'est lié aussi au Val et aux interprétations qu'on fait sur le Val, parce que là on dit oui ça ressemble au tarot, etc. Oui, enfin ce qu'il faut savoir c'est qu'avant de pouvoir tirer les cartes du Val, il faut d'abord
ça bien ressemble au Val surtout, hein,
voilà, c'est le Val en fait. Donc ça
même
c'est
si,
ça, c'est
quand tu lis la divination, il y a les descriptions des enfants magiciens et compagnie qui est bien plus psychologique. Pas la même que dans
la divination.
Ouais, dans la divination, oui. T'as refait une description.
Alors exactement. Et c'est là, ça je voulais y venir. C'est très important. Pourquoi est-ce que dans le Val on trouve cette méthode divinatoire ? Eh bien, c'est pour cela. C'est pour associer le Val au symbole. Regardez, à chaque fois que j'explique le Val, vous savez, je raconte la petite histoire comme sur Trick Track où j'explique en gros le mage c'est Mediapart, que le trèfle c'est Jérôme Cahuzac qui se prend la critique de Mediapart, etc. D'où ça vient cette idée-là ?
Mais qui n'est pas condamné au final. Enfin, qui est condamné mais qui n'a rien à payer.
Il n'a finalement rien à payer. Oui. Mais donc tu vois, l'idée c'est ça, c'est aussi de montrer que le Val c'est un jeu de symboles. C'est-à-dire que quand on joue au Val, on est vraiment en train de jouer dans le monde. Le Val, ça peut être tout à fait la France contre l'Angleterre. Comme ça peut être les philosophes contre les sophistes, voilà, c'est ça. Le Val, c'est symbolique. Et la divination, ça permettait vraiment d'aborder cet aspect symbolique du Val et d'y aller les deux pieds dedans et de donner au Val une force symbolique qu'il n'avait pas uniquement par les règles, du jeu. Donc voilà, pourquoi la méthode et puis d'autre part parce que j'adore ça. Donc voilà. Alors pourquoi vous on a répondu à ta question, Maxime. Qu'est-ce que tu attends de quand on tire les cartes?
Oui, ouais. Oui, j'ai dit vous, hein.
Elle ne vous voit pas.
Ouais,
non,
moi,
pas encore.
Moi, en général, si. Donc.
Non. Tu rêves là. Tu prends tes tirages pour des réalités.
Qu'est-ce que j'en attends? Franchement, il y a une partie de confirmation, ça c'est clair. Parce que ça me fait triper de me dire. De tomber sur les bonnes formations, mais je cherche aussi des fois à être surpris.
Et de dire, tiens, pourquoi celui-là, il est dépeint avec...
Genre, je l'aurais pas cru comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des aspects de lui que je me voile vis-à-vis de ce que je pense spontanément de lui ou d'elle? Est-ce qu'il n'y a pas des fois il y a des trucs, tu te dis, bon, voilà, cette personne, je la pense comme ça. Et du coup, vu que tu la penses comme ça et que tu as une vision cliché d'elle, enfin caricaturée, tu te dis, bon, bah, je vais pas voir plus loin. Tu la vois vis-à-vis de ce que ça. Et ça peut te pousser à réfléchir un peu plus loin, des fois, de un spectre. Mais en quoi? Et là, tu fais.
Je suis tout à fait d'accord.
Ouais. Et là, tu fais, ah ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a des aspects. Mais c'est pas définitif. Je sais très bien que c'est qu'un jeu. Mais ça me pousse à me poser des questions un peu plus loin. Que des fois, bah, c'est une méthode comme une autre. Il y en a qui arrivent à se poser ces questions tout seul, très bien, bah, tant mieux. Mais là, en plus, tu dois les exprimer devant quelqu'un. J'avoue que j'ai encore du mal à beaucoup l'exprimer devant quelqu'un. J'aime bien me faire ma divination tout seul dans ma tête.
Alors là, tu vois, c'est intéressant. En fait, ce que tu es en train de dire, la Maxime, et après, on interrogera Jérôme sur cette question aussi, mais c'est que finalement, le Val divinatoire te surprend par les attributs qu'il confère à tes potes et que du coup, ça change ton angle de vision sur eux. Et que ça, quelque part, ça te fait prendre du recul sur ce qu'ils sont. Et après, tu peux dire, non, en fait, ce voyage n'en valait pas la peine. C'est-à-dire, imaginez que, par exemple, quelqu'un qui a énormément de cœur est un spectre. D'un coup, tu te dis, ah ouais, la source me dit ça? Tiens, mais pourquoi elle me dit ça? Donc là, tu t'interroges. Ça peut ne, finalement.
Ça peut à la fin te dire, bah, ça non, peut à la mais, fin de... ça peut non, dire, bon, bah, les cartes, elles ont dit de la merde. Là,
elles ont dit de la merde, voilà,
pas.
C'est ça. Mais au moins, tu te seras posé la question. Là où, la plupart du temps, quand tu rencontres les gens, t'as des préjugés ou des présupposés, tu ne te poses pas de questions. Donc le Val, finalement, te permet de prendre du recul et de te poser des questions que tu ne te serais jamais posées sur certaines personnes si tu n'avais pas été le consultant d'une divination.
Et sur moi-même, parce que des fois, même ça, c'est mon côté R, je suis timide avec mes émotions.
D'accord.
Je ne les transmets pas facilement de vive voix. Donc j'aime bien faire tirer les cartes à quelqu'un, parce que je suis capable de me taire et de juste poser les questions. J'ai beaucoup plus de mal à verbaliser devant quelqu'un ce que je pense.
Oh, bah tu as toujours eu cette... toi, t'es quelqu'un qui pose les questions. Les réponses, c'est compliqué parce que t'as une contrainte d'exigence sur ce que tu dis et ce que tu... Dans la mesure où toi, t'es quelqu'un qui aime bien dire la vérité, dire des choses qui sont bien pensées, bien construites, etc. Tu pourrais pas faire comme moi et dire de la merde sur la cellule toutes les semaines. Il faudrait que tu poses les choses, que tu réfléchisses.
Il y a une part d'image de soi-même, il y a une part de j'ai du mal à me dire que si jamais quand je parle de moi à cette personne-là, même si elle reste silencieuse, son image de moi va changer et elle aura peut-être une image plus claire de moi et je saurais pas clairement ce qu'elle pense de moi.
Parler, c'est prendre un risque, c'est prendre le risque de détériorer son image. Quoi.
C'est ça.
Dévoiler. Hein.
C'est se dévoiler. Et ça, j'ai encore un peu de mal. Peut-être que plus tard, j'y arriverai. Ça c'est psychologique. Quoi.
Jérôme, en tant que consultant, alors je sais pas si tu as été beaucoup de consultants. Ouais.
Je m'en suis fait une moi-même, peut-être deux. Moi, il y a vraiment un côté comme Maxime où j'adore être surpris par les résultats que je vais tirer par rapport aux gens. Vraiment, cet aspect, ouais, comme tu disais, ah tiens, cette personne-là, finalement, c'est un accompli.
Pourquoi ?
Et je sais que ça m'est arrivé une fois avec l'être de l'ombre, il me semble, je crois, qui s'était révélé être un accompli. Et j'avais délibérément attaqué son pouvoir parce que je me disais ça peut pas être un accompli quoi. Enfin, c'est forcément un chevalier.
Ça, c'est vrai aussi, le fait que le Val te pousse à faire des actions sur les êtres, et parfois des actions négatives, parce que tu es forcé de les jouer, je crois, les cartes. Hein. Tu dois jouer.
C'est ça, on est forcé de les jouer. Et du coup, on peut simplement se contenter de faire des éducations un peu dans le vent. J'échange ton 6 contre un 5 de carreau, ou vraiment attaquer. Ouais,
ça,
ou
veut dire,
même...
ça veut dire quand même que ton contact va le rendre plus débile, quoi. C'est quand même pas positif.
Ou alors non, ça va juste briser un petit peu ses certitudes. Non, pas ses certitudes, c'est
ouais,
le carreau.
Si, peut-être. Ouais, si.
Ça va le rendre plus impétueux peut-être et moins peut-être. Sûr de lui. Parce que des fois, tu peux penser être un accompli, alors que dans le fond, t'en es encore qu'au stade du chevalier.
Absolument. Ça reste moins agressif que d'attaquer son pouvoir.
Ouais, c'est clair. Ou son cœur. Son cœur.
Transformer quelqu'un en spectre, ça, je l'ai jamais fait par contre.
Jérôme, tu disais.
Et du coup, il y a toujours aussi ce côté introspectif où tu te dis bon. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment voulu l'attaquer comme ça? Parce que moi, je l'ai déjà fait, Maxime. Il me semble que c'était pas le carreau que j'avais attaqué, mais le cœur, en fait.
Ouais.
Enfin, le trèfle. Mais bref, on se demande pourquoi est-ce que j'ai éduqué en ce sens? Pourquoi est-ce que j'ai attaqué cette fois-ci plutôt que d'éduquer?
Ouais.
Ah, pour transformer quelqu'un en spectre, il faut avoir des griefs contre lui, moi, je pense.
C'est tout à fait possible.
C'est voilà, ou c'est dire cette personne,
tu avoues.
Voilà, c'est ça, c'est cette personne, je la vois comme quelqu'un de mauvais actuellement, je veux pas, ce n'est pas un accompli, c'est un spectre, c'est un menteur et je vais le révéler, je vais dire la vérité, bam, allez, deviens le spectre que tu es. Connard.
Voilà, il y a un côté comme ça.
Ouais. Bah ouais, ça peut être aussi admettre que cette personne est morte par exemple. Ouais.
Ah oui.
Ça peut être aussi faire le deuil de quelqu'un. Moi, je vois ça par exemple par rapport à des relations anciennes, des ex-copines ou alors des gens qui sont décédés et finalement qui gardent une influence sur toi. Là, je peux évidemment parler de ma mère par exemple qui garderait une influence sur moi. Bah, c'est admettre finalement jouer un pic sur le cœur. C'est admettre finalement qu'elle s'en est allée, qu'elle est aujourd'hui un spectre parce qu'elle a quand même de l'influence sur le Val. Mais tu vois qu'elle s'en est allée, etc. Par exemple, j'ai jamais vécu ça dans une consultation. Hein, ce que je suis en train de dire, mais ce serait un exemple. Ça peut aussi vouloir dire ça.
C'est dur à dire à quelqu'un ça.
Tu oui, vois, bien sûr. Mais en fait, souvent, on se le dit à soi-même, on ne lui dit pas à lui. Par exemple, les relations qu'on a avec ses ex-copines, il y a un jour, on en fait le deuil, si j'ose dire, de cette relation, et on ne va pas lui envoyer un mail ou aller la rencontrer pour lui dire hey, au fait, je pense plus à toi. Je suis content.
Pire acte manqué de la
vie. Ouais, c'est ça. Donc,
l'acte manqué de la mort.
Celui-là, il est énorme, quoi.
Donc voilà, jouer le pic, ça peut être aussi dans ce sens-là. Ça peut être tuer le père, tuer quelqu'un, tuer le chevalier qui t'a influencé jadis et qui aujourd'hui n'a plus autant d'influence que ça sur
jeter l'échelle.
Sur ton jeter l'échelle. Tout à fait, c'est ça. Exactement.
Alors, moi, j'ai une petite question technique.
Jérôme.
Juste, est-ce que dans les figures que vous donnez aux consultants, pour l'appeler comme ça, est-ce que vous mettez les jokers?
Non.
Ah.
Parce que moi, oui.
Moi, je les mets. Hein.
Moi, je les mets,
ouais. Pourquoi tu l'aimais pas?
Pourquoi je l'aimais pas?
Tu connais leur, pas non, de djihadiste
ou de... Non, leur symbolique est pas assez forte pour moi, en fait.
Ah, le diable est...
Ouais. Non, enfin...
Elle est trop ciblée.
Déjà parce que... Alors, je veux pas introduire le diable et
le... Putain, le diable en homme de l'ombre, c'est tellement bien, quoi.
Mais pour moi, ça veut...
On voit bien que t'as pas Cédric dans ton entourage, toi.
Écoute, je pense que je vais m'en réjouir, puisque t'en dis. En fait, c'est leur symbolique qui me... Alors, de deux choses l'une. En fait, soit, effectivement, si on considère que c'est le diable et le Christ, c'est une symbolique qui est trop forte, trop typée. Tu vois, je peux pas en faire vraiment ce que je veux.
Trop chrétienne.
Elle est pas... Oui, et puis, trop orientée, vraiment.
D'accord.
Tu vois, ça, j'ai pas de latitude sur l'interprétation. Et, ou ça alors, si je sors de ça, pour moi, la figure du joker n'est pas assez, ne me parle pas assez en tant que joker, tout comme ça.
Ah ouais, putain.
Donc je la sors.
Moi, c'est probablement le diable. Le joker rouge, c'est probablement la figure qui me parle le plus dans le Val, quoi. Enfin, c'est.
Ouais. Moi aussi, il y a cet aspect où il est beau. Si on sort de la figure messie diable. Il y a toujours le côté, il vaut deux valets à la fois, quoi.
Ouais, il vaut +1, +1, +1.
Ah, mais je leur donne. Ouais, c'est vrai que quand je fais de la divination, alors c'est peut-être une erreur, hein, mais je compte pas les scores, vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
pour moi,
comprends.
Une dame de trèfle, c'est une dame de trèfle, je m'en fiche qu'elle fasse +2 en trèfle. Non, mais qu'elle fasse +2 en trèfle. Le fait que le joker fasse +1, +1, oui. Je sais pas quoi, pour moi, ça n'a aucune importance.
Et ça, c'est parce que je pense que tu es encore attaché à la symbolique des cartes telles que tu les as. Parce que je pense que tu faisais de la divination avant de connaître le Val, avec des cartes.
Au tarot.
au tarot, voilà.
Un petit peu, hein.
Il y a des associations.
Avec
des,
avec un jeu qui est pas un jeu pas classique.
D'accord, ouais, le tarot de Marseille, le tarot d'Yumi.
Alors on m'a tiré du tarot de Marseille, mais je l'ai jamais tiré. Ouais. Je connais 2-3 arcanes comme ça et pas très bien. Mais j'ai un jeu de tarot qui est inspiré du tarot de Marseille, mais les illustrations ne sont pas le tarot de Marseille.
Ah oui, d'accord. Voilà. C'est le jeu.
Les illustrations portent plein de messages.
C'est une compagnie de spectacle que j'aime beaucoup, dont lui connaît très très bien le tarot, d'accord. Et ils ont fait leur propre jeu avec leur univers à eux. Et ouais, je trouve que les dessins me parlent beaucoup.
D'accord.
Et puis en plus c'était pour les soutenir parce que j'adore ce qu'ils font, voilà. Et du coup je joue avec ce jeu là
Moi j'en ai plein des tarots différents, y compris sur le Marseille et tout ça.
Le tarot de Marseille est pas beau, il est extrêmement clair et hyper efficace, mais ouais, j'ai du mal.
Voilà, j'adore. Jérôme, tu posais la question de savoir si
on jouait avec les jokers.
Les jokers.
Mais par contre, t'as pas fini. T'as dit que t'avais déjà fait pour toi-même 2 consultations.
Ouais, c'est ça.
Mais t'en as fait combien pour d'autres personnes?
Une demi-douzaine, un truc comme ça.
D'accord, ok.
Pourquoi j'ai dû en faire pas loin de 10 en tout, en comptant les miennes. Donc.
D'accord. Ouais, ça fait monter la force céleste, ça.
Et là, par contre, tu l'as fait bien en posant les questions et tout, pas en. Il se pose la question tout seul ou
Ah non, ouais, je pose la question. Moi, je suis un peu procédurier, j'ai le bouquin sous le nez et.
Ouais. Mais c'est pas mal d'avoir le bouquin sous le nez parce que ça montre que justement il y a une procédure et que t'en es pas totalement le maître. Et ça c'est bien parce que son pote, il. Enfin.
Oui, il a pas l'impression que c'est la manip.
Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, un truc par rapport aux figures, parce qu'on parlait des figures. Moi par exemple, je ne demande jamais à la personne de me donner le nom de la figure qu'il choisit. Je lui dis, pense à quelqu'un quand tu tires cette figure.
Ouais, je pense que déjà ça doit être pas mal ça.
Mais ne me dis pas qui c'est. Pourquoi ? C'est très important. Parce que. Comme en général, on tire à des proches, s'il veut nous tirer nous ou tirer quelqu'un qu'on connaît, ouais, on sera forcément influencé dans l'interprétation.
Je crois que c'est ce que tu avais fait aussi, Morgane.
Et moi, ce que je trouve énorme, c'est à la fin de la divination, de demander à la personne de dire « Bon, bah alors, finalement, c'était qui ?» Et
si tu veux,
tu peux me dire finalement c'était qui. Et parfois, on a des surprises. Moi, je vois par exemple, la première fois, j'ai tiré le Val comme ça à un ami. Et un ami qui croit pas du tout à ce genre de truc, hein. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement cartésien. Et à la fin, il a dit c'est marrant parce que y a des trucs qui collaient vraiment beaucoup.
En fait, je trouve que c'est plus logique que ça colle avec le Val divinatoire qu'avec le tarot, par exemple. Le tarot, genre, ils disent oh putain, quand même, c'est bizarre, etc. Mais en même temps, c'est de l'interprétation. Mais comme là, il y a vraiment une part de choix. C'est-à-dire qu'on choisit à qui on donne les arcanes, on choisit qui c'est, etc. Je pense qu'effectivement, on peut se faire surprendre. Hein. On peut se faire surprendre parce que ça révèle un truc qu'on avait peut-être en arrière-pensée, qu'on n'avait pas mis au goût du jour, et tout d'un coup, on se dit, mais oui. Ou bien, ouais. Ça alors.
Parce que, en fait, par réflexe, généralement, quand on a envie de voir quelque chose, on va continuer à donner des ressources à une figure pour qu'elle les ait. Et au moment où elle les a, on arrête de lui donner. Donc en fait, on fait en sorte de voir ce qu'on avait envie de voir. Genre, c'est bon, j'ai mon fou, j'ai mon Romaric brillant fou avec un trèfle. et derrière,
sans carreau.
Et après, tu commences à aller en mettre d'autres. Et tu vas t'acharner, et des fois, tu vas t'acharner sur une, quitte à ce que la source ne prononce pas sur une autre. Et tant pis, au moins, tu ne seras pas surpris. Des fois, il faut lutter contre ça, quoi. Ah, tiens, lui, il a déjà un cœur, bah, je vais aller filer d'autres trucs à quelqu'un d'autre.
Tiens, d'ailleurs, j'ai une question. Comment est-ce que vous choisissez les têtes de base? Est-ce que vous les étalez toutes devant vous, puis vous les piochez consciemment en disant « Ok, celle-là, parce que machin... » Vous pensez,
est-ce que vous pensez
d'abord à la personne et vous choisissez la tête?
Oui, tout à fait. Moi, je pense d'abord à la
Jérôme,
personne.
Jérôme, toi aussi?
De la même façon, ouais, pareil.
C'est marqué comme ça dans le bouquin.
Ah oui, oui.
Oui, puis, enfin,
quand tu connais un petit peu la symbolique du Val, on voit tout de suite, enfin, on identifie direct, quoi. Tu vois, Darky en valet de carreau, enfin, c'est tellement évident, tu vois. Enfin, c'est... Ben non, mais je veux dire, c'est... Ça saute aux yeux, quoi. Et puis quand il sera plus âgé, on dira c'est roi de carreau. Enfin, tu
en
vois,
plus,
Maxime
roux,
en valet de carreau, c'est évident. Je veux dire, de la même manière que pour moi, Jérôme,
oui,
c'est un valet de pique.
Pour moi, c'est pas un valet de carreau.
Ben...
Maxime, pour moi, n'est pas un valet de carreau. Maxime, pour moi, est une figure de cœur. Parce que c'est comme ça que je le vois.
Et ben justement, tu réponds à ta question.
Voilà.
C'est-à-dire que pour moi, c'est ce que j'ai dit.
Oui.
Pour moi, c'est évident. Maintenant, pour toi, évidemment, ce
sera
une figure
de
cœur.
Je vais te dire juste comment je fais. Je les étale devant moi, toutes là, bien en ligne. Et mon
qu'est-ce que tu fais, toi?
Je joue.
Il fait tomber son pic.
Tu piques.
Je deviens magicien.
C'est-à-dire que Maxime, depuis tout à l'heure, a un vieux schlass africain dans la main. Hérité d'une vieille partie de Cthulhu.
Bah, c'est vrai.
D'habitude, j'ai trop l'habitude d'être un magicien et de pas avoir de pic, donc j'en profite, quoi.
D'accord.
Il s'amuse avec enfant.
T'as vu la gueule de la lame? Sors là, la lame. C'est 3 de pique et encore.
2 de non, pique. Non, à mon avis, c'est 5 de pique pour le tétanos que tu chopes.
Dans ta gueule, tu vas voir. Ouais.
D'accord. Donc, évidemment, c'est subjectif les figures que tu choisis.
Ce que je veux dire, c'est que moi, je Morgane, les étale
attention
devant
ton
moi.
Micro.
Pardon, je les étale devant moi. Et ensuite, forcément, d'une façon ou d'une autre, il y en a une dans le tas. Il y a une figure qui va ressortir à mes yeux. Je sais pas, j'ai mon attention qui va être captée sur celle-là et pas une autre. C'est comme ça aussi que je choisis que je tire au sort les arcanes. Mais c'est probablement à cause de ma pratique du tarot, mais je les étale devant et en fait dans tout le tas, il y en a une où je vais y revenir. Enfin, je vais passer, je vais la voir forcément. Puis je dis non, je regarde encore et hop, elle va revenir encore. Et c'est celle-là que je vais prendre. Et du coup, pour les têtes, par moment, je fais ça aussi. C'est-à-dire que je repère celle qui attire mon attention, je la prends, je regarde ce que c'est, et je dis, c'est
maîtrise.
Machin.
Ouais, on voit que tu as déjà tiré des cartes autrement qu'avec le Val, en fait. Ça se sent parce que t'as des héritages comme ça. Je trouve que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans le tirage de cartes traditionnel.
Bah ça, oui, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, à l'instinct, quoi. C'est pour ça que je posais la question, parce qu'on sait jamais.
Quand tu dis, je vais me faire une divination, tu dis pas, tiens, j'ai envie de faire une divination sur machin. Tu dis juste, je vais me faire une divination, tu sors les cartes, tu fais, tiens, ça me fait penser à machin. Tiens, ça me fait penser
non,
à machin.
C'est...
Tiens, ça, oui, tiens,
je
tiens,
vois
y a
une
carte,
je prends, je fais OK, ça c'est machin.
Oui, enfin, ça vient même. Tu vois la carte, tu fais tiens, ça me fait penser à machin.
Oui.
Et tu le.
Oui.
Je vous repose la question, est-ce que vous trouvez vraiment qu'il s'agit d'un jeu?
Ça dépend de ta définition de jeu.
Et bim, non, ouais.
Supposons qu'il y a un.
Supposons que la boîte est ouverte.
Perdu.
Alors. Ah oui, je vais.
Oh non,
enculé,
moi aussi. Vous aussi là-bas. Là.
Monster kill.
Non, c'est dégueulasse.
Oh là là.
Donc.
Benjamin, okay. Fais quelque chose.
Non, mais faites dire à cette espèce de.
Valet de carreau.
Non, de ministre anglais, parce que je crois que c'est le premier ministre anglais qui doit le dire. Faites-lui dire the game is over et puis voilà.
Ah ouais,
bizarre,
ouais,
faites quelque chose par
pitié. Faites quelque chose, quoi, je vous en prie. Donc, libérez-nous de ce jeu. Ce jeu qui, par ailleurs, est adorable parce qu'en fait, ça permet d'envoyer des petites pensées sympathiques à ses amis et de dire je pense à toi sans qu'on tombe dans le cucu du
je pense à toi.
Paillettes,
et ça, c'est quand même vachement bien.
Paillettes arc-en-ciel.
Hier soir, voilà, tout à fait.
On s'envoie beaucoup de textos avec des copains régulièrement. Ah ouais.
C'est une façon de dire coucou, je pense à toi.
Coucou, je pense à toi, exactement.
J'avais envie de te faire perdre.
Rien que pour ça, je trouve que ce jeu est assez merveilleux.
T'as perdu, mais je t'aime, mais tu as perdu.
Pour les gens qui ne connaîtraient pas le jeu, faut peut-être expliquer ce que c'est.
Non,
ils iront chercher, d'accord, très bien. Bon,
ouais, je suis un relou.
Ok. Donc, ça dépend ce que t'appelles par jeu. Alors, tu trouves que l'art divinatoire du Val, pour toi, c'est évident que ça peut être un jeu. Pour moi, c'est évident que ça ne peut pas être un jeu.
Pour moi, ce n'est pas un jeu.
Parce que ce que tu apprends,
à cause des enjeux.
Ouais, ce que tu apprends ou ce que tu retires sera forcément valable pour la réalité.
Mais la réalité n'est-elle pas qu'un grand jeu de rôle, Romain ?
Merci, Jérôme.
Il y a quelqu'un qui m'a dit la même chose, genre il y a 2 heures.
Et
il n'est pas à côté de moi.
C'est... Et il est chevelu.
Il y a un bug dans la Matrix. On fait une boucle temporelle là. C'est...
Alors, faut pas. On va pas
commencer à délirer comme ça. Non, c'est pas un jeu.
Si on parle du jeu au sens ludique, j'entends. Ouais, c'est pas un jeu. On est bien d'accord. On peut pas dire qu'on joue au Val.
On n'est pas soit ensemble à lutter contre une mécanique et à avoir une condition de victoire.
Voilà, c'est ça.
On n'est pas en compétition les uns avec les autres. On n'est pas là pour créer un univers dans lequel il va y avoir des mécanismes d'approbation.
Voilà, qui va mettre des éléments fixes. Qui vont disparaître à la fin de la partie.
Oui,
là, il est clair qu'on repart avec sa partie de Val.
Ça crée pas de maelstrom,
évidemment.
Ouais, non, ouais, c'est vrai que ça crée pas de maelstrom.
Donc voilà, je crois que c'est clair. C'est clair que c'est
je
pas.
Je sais pas. Je sais pas si vous voyez la distinction que font certains anglophones entre le game et le play, mais pas pour les jeux en général.
Tu peux nous la réexpliquer?
Alors, il me semble, je dis peut-être une ânerie, qu'ils font une différence entre le côté mécanique des règles,
le game,
qui gagne, voilà, et le play, qui est tout l'affect qu'on va mettre dedans.
La sensation du jeu, en fait, c'est le.
Ouais, en anglais, on dit to enjoy.
Oui, c'est ça. Le game, c'est les mécaniques, le système et tout ça, et tout ce qui est le ressenti, l'émotionnel, les machins, c'est le play.
Et je pense que c'est pas parce que c'est plus tourné vers le play que le game qu'on doit forcément disqualifier d'un revers de main comme ça le fait que ça puisse être un jeu. Je dis pas que c'en est un, mais je dis que c'est peut-être plus compliqué.
Moi je dirais plutôt que le Val divinatoire est une sorte de jouet éventuellement. Et la preuve de ça, c'est qu'on peut y jouer tout seul aussi, un peu comme.
Parce que le jeu à l'origine, ça n'a pas été créé lorsque les hommes ont commencé à avoir du temps à perdre pour occuper leur temps libre.
Je crois que les enfants humains ont toujours joué un peu, c'est comme les chats.
C'est le fameux loisir romain. Ouais. L'oisiveté, merde, comment ça s'appelle? Oh, ça me...
Mais le premier jeu qu'on aurait retrouvé, c'était, ah, non, c'était sur les échecs.
T'inquiète.
C'était l'expo, c'était l'expo qu'on avait vu sur le jeu à Cluny. C'était, il disait qu'en fait, le premier jeu qu'on a retrouvé actuellement, c'est un jeu en Inde. Et qu'on trouve des traces
en fait,
qui diraient qu'en fait, l'étymologie du mot jeu.
C'est divinatoire, en fait,
ça
à la base.
Ça viendrait de temps à perdre ou de, ou un truc dans le genre.
Alors, le jeu, occuper son temps. Je me souviens
c'était pas
genre, du
occuper
nom.
Occuper son temps. Non, enfin, je vais arrêter de dire des bêtises, j'ai pas relu le truc sur l'expo, donc.
Je vais essayer de convoquer des souvenirs des limbes, là. Il y a les premiers jeux qu'on trouve, effectivement. Je crois que le plus ancien qu'on a, c'est genre de moins 3000, je sais pas quoi, en Mésopotamie.
Ouais, c'est des cubes en bois en Égypte, non?
Non, c'est en Mésopotamie, c'est une pierre avec des trous. Ouais, il me semble.
Ah ouais,
un truc du genre. Et les jeux, alors je me souviens pas du nom du jeu, il y a un jeu égyptien, vous savez, avec un plateau sur pied, et vous déplacez, il y a des trous, et vous déplacez des petits bâtonnets avec des têtes de chacal ou des trucs comme ça, le long du... Et vous avez des jetons, enfin des pions au milieu et tout, c'est assez compliqué comme règle. Le Sekhet, le... Enfin, je sais plus, mais...
Ça me dit quelque chose.
Toi aussi, ça te fait penser
à un
truc.
En fait, dans un jeu, il faut qu'il y ait un objectif.
Et en fait...
Il y a quelque chose à réaliser.
Bon, on va peut-être pas rentrer dans la...
Non,
peut-être pas
rentrer là-dedans. C'est que je veux juste dire que...
Morgan.
Il y a tout un pan de ce jeu. J'espère pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Il y a tout un pan de ce jeu, le fameux jeu égyptien en question, qui était divinatoire, en partie. C'est-à-dire que c'est une partie de jeu, mais il y avait quand même un côté divinatoire qui était là.
Ouais. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est
les premiers jeux de dés, etc., ont un côté divinatoire, parce que c'est un côté hasard.
Voilà. Et l'aléa est source de, d'instruction.
Et c'est pour ça que ça a été super mal vu par les religions et les pouvoirs d'État. Parce que quand on croit en Dieu, qu'est-ce que tu vas convoquer le hasard? C'est le diable.
Très intéressant, très intéressant. Ouais, d'accord.
Ils n'ont jamais réussi à l'interdire. Hein.
Enfin, en tout cas, toutes ces définitions autour du jeu et tout ne sont pas encore arrêtées. Il y a encore plein de questions, il y a encore plein de débats. On ne va pas les finir
moi
ici.
Je répondrai pas dans l'instant. Je réalise la chose.
Mais je trouve intéressant de voir que voilà, Morgan et Jérôme, spontanément, appelle les gens qui font de la divination du Val, des joueurs. Voilà.
Ah, est-ce que c'est des joueurs de Val?
Oui. Voilà. Oui, c'est ça.
Je les appelle des joueurs parce que c'est les joueurs de Val. Autant le terme de guide pour celui d'en face me paraît assez efficace, autant comme j'aime pas du tout le terme de consultant, j'arrivais pas à trouver un terme qui soit suffisamment joli et sympa, alors je les appelais les joueurs. Parce que c'est des joueurs de Val.
Juste pour préciser, c'est vrai que la plupart de ceux à qui j'ai fait des divinations, c'était des joueurs de Val, mais j'en ai fait au moins deux à des non-joueurs.
Et alors?
Eh ben, ça s'est très bien passé.
Et ça leur a pas donné envie de s'intéresser au Val?
Un petit peu, mais pas plus que ça. J'ai fait une initiation dans la foulée une fois, et puis voilà.
Parce qu'effectivement, t'as pas l'aperçu du système de jeu du Val.
Oui, mais ouais, non, c'est vrai.
T'as la couleur, voilà. T'as la couleleur.
Ça peut quand même aider à expliquer ensuite les règles.
Ah oui.
Je pense. Cette couleur, elle est indispensable. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toute cette dimension symbolique au Val associée aux arts divinatoires. C'est que je trouve que ça rajoute une facilité de compréhension des règles et des symboles attachés aux différentes pièces, en fait.
En même temps, les deux se répondent. Je veux dire, le jeu a été conçu avec un aspect tellement ésotérique, tellement symbolique, tellement voilà, avec le simple terme d'arcane, hein, suffit. Il y a une poésie dans les mots qui est là. Moi, ça me paraît être une variante qui est assez logique. Enfin, ouais. Elle m'a l'air d'aller de soi.
Je peux te jurer que pour des éditeurs de jeux de société, c'était pas logique.
Ah bah, tant pis pour eux.
Et pourtant, c'est vrai, quand on regarde l'histoire du jeu de société et tout ce que nous enseigne l'aléatoire, enfin, tout ce que l'aléatoire est censé dans la tradition un peu ésotérique nous enseigner sur le monde, en fait, finalement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est totalement, en adéquation avec ça. Et j'avais même pas pensé à ça. Enfin, pour moi, mais ça, c'est les cartes, hein. Quand je dis souvent le Val, c'est pas un de mes jeux, c'est parce que les cartes portent tellement de symboles en elles-mêmes.
Tu peux prendre le jeu de Go aussi, d'ailleurs, j'y pense. Mais dans la série, jeu qui, en fait, au-delà de son aspect, etc., est tout autant une découverte de soi que de l'adversaire.
Tout à fait.
Là, pour le coup, il y a une part de game.
Extraordinaire.
Voilà.
Il m'a appris à jouer au Go, là, Stéphane. C'était vraiment génial. L'initiation au Go, je vous le conseille, c'est vraiment très intéressant. Ça met en place toute une logique qui est pas naturelle. Et puis, il y a une dimension prise de risque, avancer sur le territoire de l'autre.
C'est un jeu tellement complexe que même les super ordinateurs ont du mal à calculer correctement des stratégies. Bah, en fait, là, l'année dernière, ou il y a 2 ans, la première partie de Go a été gagnée par un ordinateur contre un champion. Et c'était sur un tableau 9x9, donc les plus petits.
Oui, c'est ça.
Oui, parce que c'est pas courant, les 9x9.
C'est, en général, les gens normaux jouent plutôt là-dessus, quand même, hein, quand tu débutes.
Quand on débute, en tout cas, on fait du 9-9.
C'est 19-19, le moyen. Ouais. Et le grand, c'est je sais plus combien.
21-21, je crois, ou 20, quelque chose comme ça.
Ouais, je sais plus. Mais c'est immense, hein, ça fait beaucoup. Hein. Déjà, sur du 9-9, c'est déjà bien ardu. Sur du 19-19, ça devient normal. Et ouais. Enfin, c'est hardcore le go. Rapidement, pour parler un peu de divination, il y a un jeu que j'ai découvert du coup suite à mon intérêt sur la divination qui s'appelle le jeu Le Normand. Vous connaissez le jeu Le Normand ?
Pas du tout.
Ça parle de trous ?
Non,
pas du tout. C'est un jeu de cartes en fait sur lequel les cartes sont nommées du genre alors le chemin, l'arbre, l'encre, le monsieur, le mont, l'enfant, la haute tour, le cercueil, le vaisseau, le nuage, la lettre, l'ours, l'anneau, la lune, etc. D'accord. Le cavalier, le chien, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, on va étaler toutes les cartes sur la table en un ordre précis. Donc dans un grand, si tu veux, un grand rectangle. Et ce qui va faire la divination, en fait, c'est le positionnement des cartes les unes par rapport aux autres. Par exemple, si la dame est rapprochée du monsieur, ben ça veut dire qu'ils s'aiment beaucoup. Si le cercueil est à côté de la dame, etc. Si les nuages sont éloignés de la dame, ça veut dire que les soucis sont loin et déjà. Et il y a tout. En fait, ce qui est énorme, c'est que la divination avec ce jeu est en fait la spatialisation. C'est-à-dire que c'est l'espace, c'est exceptionnel.
On va se mettre
on a une influence comme dans le Val ou c'est un plus aléatoire?
Pas du tout. C'est de la consultation au sens, non, c'est pas du tout de la consultation au sens du Val parce que encore une fois, le Val c'est de la maïeutique. Là ici, c'est vraiment le consultant qui tout seul interprète les cartes et dit au consultant ce qu'il
d'accord.
y voit. Mais le consultant n'a rien à dire.
En fait, quand j'y réfléchis, le tarot, c'est vraiment de l'interprétation des arcanes, de leur position, de leur symbolique, de leur... si elles sont retournées en vie ou en... Je sais plus comment
leur,
on appelle
rotation,
ça.
Ouais.
Leur rotation. La divination du Val, c'est de la verbalisation. Et du coup, ça, c'est, tu me dis, de la spatialisation.
La spatialisation, c'est-à-dire que c'est l'espace, c'est les lieux où les cartes sont sur le quadrillage qui va donner et déterminer leur sens.
Ça m'a rappelé un tirage de tarot, mais tellement tiré par les cheveux que tu m'avais fait. Le seul que tu m'aies fait, d'ailleurs. Pardon, je parle à Morgane. En gros, je m'étais retrouvé avec toutes les cartes à l'envers.
Ouais, t'avais tiré.
C'était nawak. J'étais en train de me dire, bon, est-ce que sur mes sujets de capes, ça va aller? Parce que j'étais comme ça pour rigoler en période de stress. Et là. J'avais jamais vu un tirage comme ça, tout à l'envers. En gros, ta gueule, qu'est-ce que tu poses une question comme ça? C'est complètement con, quoi. C'est ce que m'a répondu le tarot.
Vas-y, Jérôme, je t'en prie.
Romaric, tu citais... donc, comment tu l'appelles, cet autre jeu, là?
Le jeu Le Normand.
Le Normand, ouais.
Le jeu Le Normand. Voilà.
D'accord. Alors, dans un autre genre, là, c'est plus maïotique. Alors, il me semble, parce que j'en ai juste vaguement entendu parler, il paraît qu'il y a un truc, ça s'appelle le jeu du Tao. Ce serait un livre.
J'en ai entendu parler aussi. Mais c'est un livre.
Je connais pas si vous avez des trucs là-dessus.
Je connais juste deux noms.
Et non, malheureusement. Non, je connais pas non plus.
Il va falloir aller chercher ça.
Par contre, si vous cherchez le Normand, sachez que c'est un jeu rare.
Ah bon ?
Bah oui.
Pourquoi ?
Parce que Gérard.
Gérard le Normand ?
Oh là 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 là
oh là là.
YOLO.
Tu vois ce que je te disais, Jérôme, la dernière fois ? Les Remax, le ça, tu vois.
Là, il écrit sur le jeu Normand « Carte de bonne aventure d'après la méthode reconnue si exacte de Mademoiselle Lenormand. »
Pardon.
Donc voilà, et c'est vraiment moi je trouve c'est vraiment elle est vraiment géniale cette méthode.
Ah, testé tout à l'heure.
Elle est super parlante. Donc voilà, petit coup de pub pour ce que j'aime bien. Putain, j'avais une question.
Pardon.
Par rapport au fait que vous tiriez les cartes à vous-même pour vous-même, ça joue, ça qu'est-ce que
moi,
ça
moi ça marche moins bien.
Ça marche moins bien. Jérôme?
C'est ça, c'est moins bien, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un en face, quoi.
On est moins dans l'ambiance,
c'est...
quoi.
Déjà, et puis en fait on s'interroger soi-même, c'est compliqué. Et quand comme justement le cœur du jeu c'est la verbalisation, c'est compliqué parce qu'on du coup comme on se parle pas, à moins de parler à voix haute, ce qui est possible, j'ai jamais testé la divination à voix haute.
Ouais, je le fais. J'en ai fait deux fois, la première fois je l'ai fait tout seul dans ma tête et une fois je l'ai fait à voix haute.
Et alors ça marche mieux à voix haute ?
Ça marche mieux, ouais.
D'accord.
Pour moi, soit tout seul, c'est plus difficile à analyser en fait.
Il y a des questions enfin, on est peut-être un peu consensuel quand on se pose soi-même les questions.
Oui, et puis on élude des trucs. Je sais pas, c'est.
Moi, je pense que c'est lié à la ritualisation. Alors, il y a un truc très important aussi dans le Val dont on n'a pas beaucoup parlé dans les podcasts, mais qui joue quand même à plein régime sur l'ambiance du jeu et sur son côté un peu spirituel et justement divinatoire. C'est la ritualisation que le jeu est censé imposer à son joueur. C'est-à-dire que lorsqu'on pose la carte, théoriquement, on est censé dire, voilà, j'engendre
un être,
il possède un pouvoir, il possède un cœur, etc. Et comme par hasard, quand on le fait, ça forme une espèce de signe de croix, donc ça fait penser un petit peu au rituel catholique du signe, la signature, voilà, ou alors ça fait un H. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un côté rituel aussi de poser les cartes dans des ordres en montrant les opposés, le cœur, l'arme, l'esprit et le pouvoir. Ça signe la carte, le signe de croix, donc signe, on dit aussi qu'on se signe, et il y a vraiment cette symbolique aussi dans le Val. On retrouve la symbolique chrétienne dans le Val également à travers le dieu et le diable, mais pas uniquement à travers la Deneb qui forme une croix chrétienne, symbole de l'asile, etc. Enfin, il y a plein de symboliques comme ça liés au Val. Et tout ça touche aussi à la ritualisation. C'est-à-dire pourquoi, à mon avis, l'Église catholique a eu son succès et aujourd'hui en déclin, c'est parce qu'en fait, elle touche... De quoi ? C'est surfait.
C'est surfait, c'était bien avant, maintenant c'est has-been.
C'est un peu has-been, parce que justement elle ritualisait ces événements, et le fait de répéter un rituel, de faire comme ça un rituel, te met dans un état presque d'hypnose, de rêverie, ouais. En fait
la mécanique de rituel, hein, tu la retrouves dans plein d'événements de la vie courante, hein.
Oui.
Le fait que les jours reviennent, qu'il y ait des fêtes, que Noël, je sais pas quoi, n'importe quelle fête en fait, de n'importe quel calendrier, le fait qu'elles reviennent, le fait que votre festival revienne tous les ans à la même date, etc., au même endroit, ça engendre ainsi un mécanisme de rituel qui, en fait, est un mécanisme de cycle. Voilà,
et d'appropriation.
Un podcast tous les jeudis.
C'est aussi,
un podcast tous les jeudis.
C'est aussi l'appropriation des. L'appropriation du temps par les humains, en fait.
C'est ça.
Le fait de...
En fait, le temps ne semble plus échapper et filer comme ça vers l'infini et le néant, il revient, c'est rassurant.
Donc voilà.
Parce que la vie continue, quoi, en fait.
Exactement, tout à fait. Et donc voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que le Val, et à travers aussi les arts divinatoires, hérite comme ça de cette dimension ritualisée de la vie, du rite, du rite éventuellement judéo-chrétien. Mais comme tu viens de le souligner, Morgane, pas que, hein, on est bien d'accord, hein, c'est juste le rituel au sens large. Moi, voilà, je comparais au judéo-christianisme parce que c'est, y a le diable, le dieu, tout ça, et que ça fait penser
à ça. Mais c'est vrai que les formules consacrées dont tu parles, là, le fait qu'on redise les mêmes phrases, etc., quand on fait des actions types, ça fait penser aux litanies, mais aussi aux formules magiques.
Exactement, exactement, tout à fait.
Ou aux proverbes, on se dit quand on...
Il me semble qu'on avait bien développé ça dans un podcast de la cellule qui s'appelle le One Shot sur Polaris. Où on explique que justement, dans le jeu Polaris de Ben Lehman, il y a toute une dimension ritualisée qui fait que le jeu est comme ça, très mystérieux, très, très enchanté. Et c'est vraiment une des sources d'inspiration. D'ailleurs, Ben Lehman a acheté le Val, je ne sais pas si vous savez.
Ah oui?
Ouais, il a acheté le Val.
La classe.
Il t'a fait un retour?
Non, toujours pas. Mais je pense que justement parce qu'il a dû voir que ça faisait parmi les inspirations principales du Val. Et effectivement, hein, c'est vraiment déjà le côté blanc sur noir et tout et fait vraiment penser à Polaris de Ben Lehman. Donc voilà, il y a toute cette dimension ritualisée. Alors pourquoi j'ouvrais cette parenthèse? Parce que je parlais de la divination tout seul. Peut-être que finalement, ce qui manque tout seul, c'est un peu le côté rituel. Quand respecter l'ordre d'un rituel. Respecter la ritualisation de quelque chose, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fort lorsque quelqu'un est là pour contrôler que le rituel est effectué correctement. Un rituel, ça s'effectue devant une foule, devant quelqu'un. C'est bon, à part se brosser les dents le soir. Alors Marc, c'est déjà un rituel. La clope du matin, c'est un rituel aussi.
Le café du matin.
Ouais. On l'a fait parfois tout seul. Bon, je sais pas. C'est un coup d'épée dans l'eau.
Non. Mais si, la question est pas... Juste, je réfléchissais et... Et je me dis qu'en fait, tu vois, quand je tire du tarot, par exemple, le faire toute seule ne me pose pas de problème. Parce que la symbolique sur la carte, l'image, doit vraiment être décodée et pensée. Donc, en fait, je peux me tirer un jeu de tarot parce que toute seule, il me parle. Tu vois, les images ont sens et que, en fait, j'aurai les réponses en regardant les cartes. J'ai l'impression que, finalement, puisqu'on utilise un jeu de cartes classique dans le Val, il faut malgré tout cette dimension de verbalisation, un minimum, pour charger un peu charger la carte ou en faire émerger quelque chose qui, en fait, est pas, et pas fondamentalement codée dans l'image, quoi.
D'accord. Ouais.
Elle est codée dans le cerveau de celui qui tire, mais elle n'est pas tellement codée dans l'image.
D'accord, d'accord.
La symbolique du pic, tout le monde y met ce qu'il veut, et oui. Il faut remonter ça.
Après, bon, dans les cartes... Enfin, honnêtement, les tonalités des cartes ovales, le pic, le cœur, tout ça, c'était déjà... Enfin, les symboles sont quand même très très proches de ceux qu'on trouve dans la divination classique avec le jeu de 32. Enfin, c'est déjà vraiment très très proche.
Enfin, je cherche, hein, c'est pas ça, mais...
Alors, il y a une phrase d'un film que j'aime beaucoup, qui est un petit peu oublié aujourd'hui, complètement même, c'est complètement has-been comme truc, un petit peu comme la religion catholique.
Vas-y, balance, c'est quoi ton film
Ça s'appelle Medusa Touch, hein, et c'est traduit en français par La Grande Menace. C'est un film avec Lino Ventura, qui le voit s'opposer. C'est un des seuls films fantastiques avec Lino Ventura. Donc c'est intéressant parce que c'est pas commun de le voir jouer où il s'oppose à quelqu'un qui a le pouvoir de faire des catastrophes. Et dans ce film, en fait, à un moment donné, la personne qui commence à prendre peur de son pouvoir parce que produire des catastrophes, c'est quand même un peu terrifiant, eh bien, va chez quelqu'un qui fait des arts divinatoires et dit « Je suis allé dans le refuge des gens qui ont peur.
Ouais. »
C'est narré comme ça, il rentre dans un truc d'astrologie, de voyance, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ?
C'est souvent ce qu'on dit aux gens qui vont voir des astrologues, etc. C'est qu'ils y vont en période de doute, en période d'obscurité, enfin intérieure, et ils ont besoin qu'on les guide ou qu'on les éclaire un minimum. Alors bon, le reproche, comme on fait aux horoscopes en fait, c'est de ne rien dire et d'être suffisamment vague mais efficace. Il y a un nom, je crois, pour ça. Pour que, en fait, de toute façon, ça va coller. Ça va coller.
On dit que c'est pas scientifique, quoi.
Non, mais il y a un terme très précis, mais
pseudo-scientifique. Voilà. Mais tu vois, Maxime, par exemple, tout à l'heure, tu disais que tu avais fait une divination au moment où tu avais les boules pour tes examens. Est-ce que finalement l'utilisation des arts divinatoires du Val ou d'un autre jeu, d'une autre méthode, c'est pas le symbole que quelque part on a peur, quoi. Et du coup, c'est déjà en soi un signe négatif.
Je sais pas, des fois, tu le proposes juste spontanément à quelqu'un, il va te dire oui, il n'y a pas réfléchi au fait qu'il voulait faire une divination.
D'accord. Okay.
Donc oui, quand tu l'as fait de toi à toi-même, ouais, généralement, c'est que tu as des questions, tu te poses
quand
des questions.
Quand tu vas la demander à quelqu'un.
Tu sais que tu n'as pas la réponse, mais tu aimerais bien t'interroger dessus. Du coup, ça te permet, c'est un rituel voilà, qui te permet de te donner les moyens de te poser les questions bien. Enfin bien, d'une certaine manière.
Jérôme, la divination est-elle le refuge des gens qui ont peur ?
Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a déjà été dit là par Morgane. Ou de toute façon, ouais, c'est il y a un aspect comme ça. Après, le refuge des gens qui ont peur, ouais, vraiment le. Je suis pas sûr que ça s'applique au Val comme ça peut s'appliquer à une voyante qu'on va voir ou qu'on appelle au téléphone pour 34 centimes la minute là.
C'est ça, voilà, on va craquer des sous alors que le Val, tu vois, tu sors un jeu de cartes et chez toi
non,
tout seul.
Non, je crois que c'est une question de décharge. Parce que quand tu vas voir une voyante ou un voyant pour qu'il te tire à l'avenir, en fait, tu te décharges de ce travail d'analyse et de réflexion sur quelqu'un qui va le faire à ta place. Ce qui n'est pas le cas quand tu joues au Val.
Ouais, parce que c'est toi-même qui te poses les questions.
En fait, tu as peur, tu n'oses pas affronter, donc tu vas chercher de l'aide.
Et au Val, c'est toi qui agis aussi, parce que c'est toi qui lance les arcanes. Jérôme, non ?
Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est ça qui me fait dire que ce n'est pas effectivement complètement comparable.
D'accord, ok.
Donc, tu as raison, Maxime. Hein. La critique, c'est aussi que les voyants, etc., on leur dit souvent qu'ils profitent de la faiblesse des gens, donc de leur état d'inquiétude et de crainte pour leur tirer de l'argent.
Mamadou, grand sorcier, répare les ordinateurs à distance par la pensée.
C'est ça, il est très fort.
La plus belle annonce.
Manuel Valls aussi.
Manuel Valls aussi,
ouais.
Il fait ça.
Ouais, il peut faire ça à distance, côté au téléphone.
Insécurité, djihadisme.
Le petit jeu que vous pouvez faire sur un horoscope, c'est le jeu de Fabien que j'aime beaucoup, c'est le opieux. Vous connaissez le opieux ?
Non.
Ah, tu rajoutes opieux
à la fin de chaque phrase de l'horoscope, tu rajoutes opieux. Regardez le résultat, c'est particulièrement intéressant.
Ah,
beaucoup de bonheur opieux.
Ouais. On vous souhaite beaucoup de bonheur opieux. Soyez un peu moins directif, opieux.
D'accord.
Ça fait des trucs comme ça. Et ça fait que des trucs. Ça fait que des trucs comme ça. Et donc c'est le signe que, au final, ce qu'il se dit là est finalement applicable à n'importe quelle situation, à n'importe quel domaine.
Ça, effectivement, ça a un nom. C'est une capacité de. C'est un effet de rhétorique ou plus ou moins de manipulation, hein, qui est de dire aux gens des phrases qui sont suffisamment floues pour qu'ils y mettent.
La politique, ça, non ?
Ah, peut-être. On n'appelle pas ça la langue de bois.
Ah, d'accord.
Je sais pas. Je dis ça, mais. d'être suffisamment vague pour qu'ils y mettent ce qu'ils veulent, tout en ayant l'air pourtant de les connaître très bien. D'accord. C'est comme les, tu fais ça, genre quelle est votre, enfin quelle est la votre couleur ou un truc comme ça, plein de tests comme ça, psycho, un peu psycho. Ouais. Finalement, voilà, genre ah mais voilà, vous avez les yeux bleus, vous avez telle forme de visage, je ne sais pas, vous êtes quelqu'un d'impulsif, blablabla. Il y en a plein des tests comme ça, tous les gens qui sont sur Facebook en ont forcément vu passer des dizaines quoi.
Des trucs sur les prénoms aussi.
Où oui, la signification des prénoms.
Ah oui. Ouais. La numérologie.
La numérologie.
Ouais. Grâce à Facebook, je sais quel type de dragon je suis.
Et je sais quel personnage de Game of Thrones je suis.
Est-ce que tu sais quelle école d'Harry Potter tu es? Ah merci, je
Alors, vous êtes quelle école d'Harry Potter là?
Serre d'aigle.
Bon, évidemment. Maxime?
Serpentard.
Non, Serre d'aigle, Maxime.
Je sais pas.
Non. Jérôme Serpentard.
Quand je l'ai fait avec le Pottermore, celui qui était bien long, celui qui durait 45 questions, j'ai eu toutes les questions de départagement à la fin. C'est-à-dire que jusqu'au bout, à la fin, j'avais plus que des questions de deux pour essayer de départager est-ce que je suis plutôt Serre d'aigle ou Serpentard.
Et alors?
Mais c'était une période rigolote. Non, j'étais Serpentard.
Et toi, Jérôme?
Pouf souffle, hein, normal.
Ça m'étonne pas.
Et Romaric?
Ah, j'ai pas fait le test. Non, mais moi
je spontanément, tu
Pouf souffle.
Pouf souffle.
Oui, je suis spécialiste.
C'est les meilleurs.
Ou Gryffondor.
Oh non, non.
Bah, au moins vous apportez le soleil, vous êtes tout jaune. C'est cool.
Comme l'or. Nous valons de l'or, Jérôme. Bon, allez, une chose est sûre, c'est que cette méthode de divination, ma foi, apporte beaucoup de symbolisme au Val. Et ça, de toute façon, c'est pratique à la fois pour le Val narratif après.
Eh oui, ouais, ça, par contre, c'est une sacrée clé. Hein.
C'est une bonne clé pour le Val narratif.
Ça donne des clés, ouais. Ça donne envie de créer des personnages qui collent avec
Jérôme.
La vision. Ouais, Jérôme, ouais, fais du narratif après ça. Et t'as qu'à faire du narratif avec des personnes que tu connais. Je sais pas, j'engendre Jérôme Schultz. il a une arme, il a du cœur, il a de l'esprit. Voilà, et tu verras, c'est rigolo.
Un gros pic.
Qu'est-ce qui se passe avec le Val narratif, Jérôme?
J'engendre Dark.
Pourquoi ça déconne chez toi?
Je sais pas, je.
Tu trouves sa machine à saucisses?
J'ai une partie qui avait eu un tirage un peu foireux.
Ah ouais, ouais.
Et une autre où
faut essayer le Val
il y avait eu une répétition d'enfant ou je sais plus, enfin d'assaut ou vraiment le
Serge
on a
non,
dire
non
Serge,
pas
on
lui
on
non
plein.
Chut, n'a pas le droit de dire le droit de celui qui nous finance, voyons.
Merde,
pardon.
Mais il me semble qu'il y a eu pas mal de répétitions, mon adversaire on mettait pas mal d'êtres et j'arrivais tout le temps à les lui casser tour après tour et j'avais l'impression un peu à la fin de raconter des choses
oui,
pour la surenchère, quoi.
C'est ça. Ouais, c'est... Bah, on a écoute le podcast sur le Val narratif qu'on fait.
Ouais, Maxime a tendance à penser la même chose. Ouais. J'ai envie de dire
que j'avais entendu. Ouais.
Ouais. Donc voilà, il y a évidemment le Val narratif n'est pas parfait, c'est clair.
Disons qu'une non-partie qui se joue très vite en Val normal prend des plombes à se terminer en Val narratif alors qu'on a compris que c'était fini, quoi.
Ouais. C'est pour ça.
Sauf quand t'as le Spirit Yen Sully.
C'est pour ça qu'il faut essayer peut-être de le drafter ou peut-être de le jouer en 50 aussi avec 50 points de majesté au lieu de 25. Ouais, on va le péper. Eh bien voilà, on va vous laisser sur cette fin de saison. Merci Morgane, merci
Madame
Maxime,
Soleil.
Merci Jeff, merci Darky.
Merci à 50 euros.
Stéphane, merci à tout le monde qui a participé à cette deux premières saisons de Val. C'est super comme ça de pouvoir parler du Val un petit peu comme sur
la
cellule de sens.
On va essayer de deviner la saison prochaine, non?
Attends, à tirer une carte, j'ai pas
de savoir de quoi il s'agira la saison prochaine.
Non mais c'est vrai que
on se disait j'en ai là, j'en tire une.
Alors c'est quoi? C'est quoi?
C'est un 5 de cœur.
Ça va.
On aura un peu plus d'auditeurs. Ça.
Voilà.
Un bisounours.
Vous êtes gentils.
Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça nous a fait très plaisir comme ça de vous présenter des podcasts aussi sur le Val. On ne sait pas s'il y en aura d'autres, si ça continuera. En tout cas, le blog du Val ne se ferme pas. Il reste ouvert à vos articles et
à vos tournois.
À vos tournois, etc., etc. À bientôt tout le monde. Merci à tous. À bientôt.
Brillez bien.
Brillez bien.
Jouez bien.
Salut.
Portez-vous bien. Décalé, gâteau, décalé, gâteau.